Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Mourang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Les ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant des sangs au cercueil. La République vous appelle, sachez vaincre ou sachez périr, un Français doit vivre pour eux. Un Français doit vivre pour elle, pour elle, un Français doit mourir.
La République nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, pour elle, un Français doit mourir.
Ils sont morts, mais ils ont vaincu. Le lâche accable les dents n'a point connu la vie qui meurt pour le peuple avec lui. Vous êtes vaillants, nous le sommes. Guidez-nous contre les tyrans. Les républicains sont des hommes. Les esclaves sont des enfants. La République vous appelle, sachez vaincre, sachez périr. Un Français doit vivre pour elle, pour elle. Un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir.
Vous venez d'entendre le chant du départ, interprété ici par André Dassary. Ce chant révolutionnaire, dont le titre original était « Hymne de la liberté », fut composé par Étienne Méhul et écrit par Marie-Joseph Chénier, le frère du poète André Chénier, guillotiné le 25 juillet 1794, soit un mois après sa création, le 26 juin 1794. Quelle ironie ! Le défenseur de ce chant de la liberté, Maximilien de Robespierre, n'avait pas admis la critique du poète contre le jacobinisme. Napoléon Ier préférait ce chant révolutionnaire à la Marseillaise. Aussi en fit-il l'hymne du Premier Empire. Ce chant fut largement utilisé pendant les guerres, et particulièrement pendant les deux guerres mondiales, car il symbolise la volonté de défendre la patrie au péril de sa vie, et il glorifie la mort utile. L'idée d'associer liberté à égalité et fraternité nous vient de Maximilien de Robespierre qui, en 1790, désirait voir cette devise fleurir sur les drapeaux et les uniformes, mais son projet ne fut pas retenu. Il faudra attendre la révolution de 1848 pour que ces mots deviennent la devise de la République, comme l'écrivait Victorine Brochet dans « Souvenir d'une morte vivante ». Dans la soirée, mon père rentra à la maison. Il nous raconta comment il avait passé ses 3 jours. Il était aux Tuileries au moment de l'invasion populaire avec sa compagnie. Le récit qu'il nous fit était triste. Cependant, il était heureux, espérant la proclamation de la République. Il nous dit aussi qu'il avait vu gravé sur les moulures du trône « Le peuple de Paris à l'Europe entière, liberté, égalité, fraternité ». Ces 3 derniers mots sont maintenant notre devise nationale. Je vous conseille vivement la lecture des souvenirs de cette femme qui sont un témoignage d'une femme du peuple militante et ambulancière pendant la Commune. En 2017, l'Éducation nationale, désirant inculquer aux enfants son idée de liberté, fit appel à ZEP pour réaliser un petit clip animé, évidemment avec l'argent public. Voici la bande-son qui donne une idée de ce que le gouvernement compte bien faire entrer dans la tête de la jeunesse.
C'est quoi les grandes valeurs de la République ?
Liberté, égalité, fraternité. En France, on a la liberté de dire ce que l'on pense.
Ça va pas la tête ?
On a la liberté de faire le sport qu'on veut, la musique qu'on veut, et même de croire qui on veut.
J'ai vu sur Internet qu'une météorite allait désintégrer la Terre.
Alors c'est plus la peine de réviser.
Mais on a aussi la liberté de penser, c'est-à-dire de ne pas croire ni faire n'importe quoi sans se poser de questions.
La République, c'est tous ensemble.
Eh ben en fait, la Tour Eiffel, c'est un alien géant.
C'est bien la liberté qui nous intéresse aujourd'hui. En 1833, Adolphe Rion, socialiste, imprimeur, journaliste, propagandiste, écrivait dans son catéchisme républicain « Quels sont les droits naturels de l'homme ? Les droits naturels de l'homme sont le libre exercice des facultés qu'il a reçues de la nature. Exprimer sa pensée est un droit, comme voir, penser, agir. Quels sont les principaux droits que la société doit garantir ? L'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, l'instruction, l'assistance. » Mais en 1833, sous Louis-Philippe, Adolphe Rion trouve que le compte n'y est pas, car les lois ayant été faites par les privilégiés, l'immense majorité des citoyens n'a pas été libre de les accepter ou de les repousser, donc pas de liberté. Et il rêvait de ce que doit être une république, à savoir un gouvernement dans lequel chacun est parfaitement libre en ce qui ne nuit pas aux autres. En juin 1848, la Deuxième République, proclamée par Lamartine le 24 février, réprime dans le sang les émeutes des ouvriers parisiens. À ce propos, Lamennais écrivait « Ce que nous voyons, ce n'est certes pas la République. Ce n'est même rien qui ait un nom. Paris est en état de siège, livré au pouvoir militaire, livré lui-même à une faction qui en a fait son instrument, les cachots, et les forts de Louis-Philippe, encombrés de 14 000 prisonniers, des transportations sans jugement, des proscriptions telles que 1793 n'en fournit pas d'exemple, des lois attentatoires aux droits de réunion, détruits de fait, l'esclavage et la ruine de la presse par l'application monstrueuse de la législation monarchique remise en rigueur, la garde nationale désarmée en partie, le peuple refoulé dans sa misère plus profonde qu'elle ne fut jamais. Non. Encore une fois, non, certes, ce n'est pas là la République, mais autour de sa tombe sanglante, les saturnales de la réaction. Pierre Dupont, le chantre de la classe ouvrière, composa « Les journées de juin », chanson qui fut critiquée pour l'ambiguïté de certaines paroles. Je vous laisse juge, voici « Les journées de juin », chantée par Nicole Verville.
La France est pâle comme un lys, le front scinde de grise verveine. Dans le massacre de ses fils, son sang a coulé de ses veines. Ses genoux se sont affaissés dans une longue défaillance. au niobé des temps passés, viens voir la douleur de la France. Enfants adieux, le sang des morts de cette terrible hécatombe, et que la haine et les discords soient scellés dans leur tombe, soient scellés dans leur tombe. Quatre jours pleins et quatre nuits, l'ange des rouges funérailles, ouvrant ses ailes sur Paris, a soufflé le vent des batailles. Les fusils, le canon brutal, vomissaient à flot sur la ville. Une fournaise de métal qu'attisait la guerre civile. Offrons à Dieu le sang des morts de cette terrible hécatombe, et que la haine et les discords soient scellés dans leur tombe, soient scellés dans leur tombe. Il ne reste après ce grand deuil d'autre profit que la bataille, que des frères dans le cercueil et des prisonniers sur la paille. Ô République, au front des reins, ta justice doit être lasse. Au nom du peuple souverain, pour la première fois, fais grâce. Offrons à Dieu le sang des morts de cette terrible hécatombe, et que la haine et les discords soient scellés dans leur tombe, soient scellés dans leur tombe.
Avant de continuer sur ce thème de la liberté, il serait utile d'entendre ce qu'un philosophe nous dit sur la liberté, qui est un vaste concept. Aussi ai-je fait appel à Thomas Sabourin, dont le livre « L'art comme expérience spirituelle » doit prochainement paraître. Bonjour Thomas. Alors, cette liberté, par quel bout la prendre ? Nos professeurs de philosophie nous apprenaient que l'homme n'est pas libre, que nous avons le libre arbitre, ou encore que notre liberté s'arrête là où commence la liberté d'autrui. Et nos politiques aujourd'hui veulent nous faire croire qu'être libre, c'est ne pas penser différemment. Peux-tu nous aider à y voir plus clair, Thomas ?
La liberté est le fait pour un être d'agir selon sa propre volonté. On doit ainsi la concevoir en analysant ce dernier concept en ses moments constitutifs. La capacité à ressentir les mobiles de l'action, c'est-à-dire à éprouver du désir, la capacité de délibérer, de peser le pour et le contre, et finalement de prendre une décision qui détermine les motifs de l'action, et enfin la capacité d'exécuter la décision. L'idée de la liberté implique de la sorte une puissante contradiction. Car la volonté libre serait une volonté qui produirait elle-même ses propres mobiles, celle d'un sujet qui ne subirait aucune pression, aucune influence due à autre chose que lui. Un tel être ne devrait alors avoir aucune relation avec autre chose que lui, il devrait être tout ce qui est, exister au milieu du néant. De la même manière, la liberté exigerait que l'action en exécute les décrets sans rencontrer la moindre contrainte, la moindre résistance. Et pourtant, l'idée même d'action implique que celle-ci s'applique à quelque chose, cependant que l'idée du désir implique quelque chose à désirer. Être absolument libre exigerait donc à la fois que rien n'existe qui puisse avoir une influence sur le sujet de la volonté, et que quelque chose existe qu'il puisse désirer et sur quoi il puisse agir. La liberté absolue définit ainsi une absurdité. Éprouver le sentiment de la liberté en laissant le désir déterminer la volonté et en l'exécutant sans rencontrer d'obstacles, revient en réalité à laisser la volonté être déterminée par des causes qu'elle ignore. Mais plus fondamentalement encore, il faut remarquer que ce que nous désirons dépend de ce que nous sommes, et donc de ce que nous pouvons. Éprouver le plus grand sentiment de la liberté dans ce sens consiste à ne vouloir que ce que nous pouvons déjà. Fermer l'horizon de notre volonté à ce qui dépasse nos pouvoirs habituels, pourtant, ne saurait constituer la liberté. Il suffit ainsi à ceux qui exercent le pouvoir de nous cacher absolument l'étendue réelle de nos possibilités d'être pour s'assurer que nous ne pourrons pas vouloir autre chose que ce qu'ils nous laissent la possibilité de faire. Il suffit de céder à nos désirs immédiats pour permettre également à ceux qui exercent le pouvoir de les déterminer par le conditionnement, la propagande, le mensonge et la réclame. Ainsi, accéder à notre liberté, c'est d'abord nous demander pourquoi nous désirons ce que nous désirons, c'est d'abord oser envisager que nous pourrions être capables de ce dont nous ne sommes pas encore capables. En d'autres termes, être libre signifie d'éprouver le sentiment que nos désirs ont été induits, qu'ils ne viennent pas de nous-mêmes, et éprouver le sentiment que ce que nous croyons possible n'est qu'une infime part de ce qu'il est réellement, et d'éprouver ainsi les contraintes qu'imposent les faits. Cette réflexion de la volonté sur elle-même, qui en vient à se découvrir comme n'étant pas vraiment le fruit de son propre acte, mais celui de volontés qui lui sont étrangères, ce sentiment, en somme, de nous éprouver manipulés et contraints, ce sentiment de ne pas être libre, c'est précisément le commencement de la liberté véritable. Et la liberté n'est toujours qu'un commencement. Car entrer dans cette réflexion, c'est entrer réellement en délibération. Celle-ci se heurte sans cesse à ce qui pèse sur la liberté, les déterminants du désir et les conditions de l'exécution des décisions de la volonté. Ces déterminants sont infinis, et leur force dans la délibération dépend de la manière dont nous en sommes affectés, de ce que nous ressentons. La délibération ne saurait pour cette raison se concevoir comme un calcul, au terme duquel nous pourrions comparer absolument les options que nous pouvons choisir en leur accordant une valeur quantifiable. L'idée d'une telle valeur, induite par l'idée d'une pesée, du pour et du contre, est une parfaite illusion. La décision qui doit intervenir pour déterminer la volonté en mettant fin à la délibération est à la fois un acte de l'affectivité et une acceptation d'un coefficient irréductible d'ignorance de notre part. Cette incapacité dans laquelle nous sommes de réduire la décision à un calcul, et dont rêvent certains en prétendant confier leurs décisions à des ordinateurs, est certes angoissante, puisqu'elle livre nos décisions à l'inconnu, mais elle détermine également la décision comme l'acte le plus intérieur, le plus propre et le plus insubstituable, celui que nul ne peut accomplir à notre place. Et le véritable sens de la liberté, c'est précisément qu'elle désigne notre capacité à accepter cette individuation qu'opère la décision, non pas comme une illusoire liberté absolue, mais comme l'affirmation la plus radicale de la volonté dans l'acte de responsabilité.
Donc, si j'ai bien compris, Thomas, notre liberté, c'est accepter une part d'ignorance de notre délibération. Peser le pour et le contre, comme on dit, c'est notre liberté. Mais il faut accepter qu'à la fin, il n'y aura pas de quantification. Le désir ne se quantifie pas. Être libre, c'est donc vraiment être soi-même. Personne ne peut prendre une décision à notre place. C'est bien cela.
C'est exactement cela, Jeanne, puisque la liberté ne peut appartenir qu'à un être qui ressent du désir. Et de ce fait, il faut absolument la différencier du calcul.
Je te remercie et à très bientôt.
Merci, au revoir.
En 1979, Jacques Attali, bien au courant des évolutions sociales qui se dessinaient, tentait d'expliquer que nous finirions par renoncer à la liberté par nous-mêmes. Comme disait Thomas à l'instant, ne vouloir que ce que l'on connaît. Voici un extrait de cette interview.
C'est un problème important, la liberté humaine. Vous avez dit, l'homme fabriqué par l'homme n'est plus l'homme. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là ?
Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même, y compris les idées d'Ilitch dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes ? C'est une société qui dit, soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Ilitch. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer.
En 2020, la guerre avait été déclarée contre un malheureux microbe. En 2021, Macron, toujours aussi arrogant, donnait une leçon de liberté aux Polynésiens.
Partout, nous devons faire société. Et on ne doit jamais l'oublier. À juste titre, nous sommes tous et toutes attachés à la liberté. C'est ce qu'on veut. Et on est attaché à la liberté pour nous-mêmes, pour nos proches. On est attaché aussi à la liberté dans un territoire formidable comme celui-ci, qui doit accueillir le reste du monde aussi, dès que possible. Aucune liberté n'existe sans devoir. La liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas. C'est une fiction. Les gens se mentent à eux-mêmes. Ma liberté ne s'arrête que là où la liberté de l'autre commence, mais surtout, elle repose sur un sens du devoir réciproque. Que vaut votre liberté si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner » Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Et au nom de votre liberté, après-demain, vous allez peut-être avoir une forme grave, vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge. Et peut-être qu'ils devront renoncer à prendre quelqu'un d'autre, déprogrammer une opération au nom de votre liberté. Ça n'est pas ça la liberté. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme.
Ce nouveau badinguet veut, comme toujours, nous culpabiliser afin que nous baissions les bras et que nous cessions de nous battre pour notre liberté. Que l'on devienne ce que ces hommes de pouvoir veulent que l'on devienne. Ainsi, ils pourront mieux nous contrôler. En 1969, Claude Santelli interviewait Georges Brassens sur la liberté. Impressionnant.
Qu'est-ce qui est le plus grave dans l'avenir du monde pour vous? Ne parlons pas de problèmes de cataclysme guerrier, etc., mais simplement un certain monde nouveau où les hommes ne vivront
pas. Ce qui est peut-être le plus grave, c'est que l'homme perd son individualité, son espèce de liberté. La liberté, je parle de la liberté individuelle, la petite liberté que nous avons encore un petit peu, quoi, cette espèce de liberté de penser tout seul, même de penser qu'on va se raser de telle manière, qu'on va se peigner de telle manière, alors qu'aujourd'hui, il semble que cette liberté soit complètement réduite à néant. Quoi. Il semble qu'on n'achète pas un paquet de cigarettes, qu'on n'achète pas une pipe, qu'on n'achète pas une corde de guitare ou une boisson quelconque, sans avoir été, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup, conditionné par tout ça. C'est une espèce de groupe qui vient autour de nous et qui nous crie ça aux oreilles. Il faut boire ça, il faut faire... Je crois que c'est ça le plus grave. C'est que l'homme est en train de disparaître en tant qu'individu. Enfin, il n'est pas dit que ce soit définitif, ça, mais en ce moment, ça en prend bien le chemin. Regardez, autrefois, vous voyez les femmes. Quand une femme était belle, elle était belle toute seule. Aujourd'hui, vous rencontrez une femme qui est très belle, vous lui donnez rendez-vous, le lendemain, c'est une autre qui vient, vous ne faites pas la différence. Elles ont les mêmes yeux, le même regard, le même déhanchement. Elles sont chaussées de la même manière, elles ont le même timbre de voix. Elles ont la même couleur de peau. Elles ont reçu les mêmes rayons ultraviolets. Tout le monde se ressemble.
Et tout le monde souhaite se ressembler.
Fâcheusement, aujourd'hui, de plus en plus, oui. Il semble bien que la plupart des hommes n'aient pas besoin d'être différents les uns des autres, alors que ce qui est important chez un être auquel... Chez un autre que soi-même, c'est les différences. Ce qui peut nous plaire dans un autre, c'est qu'il est différent de nous. Il semble que les hommes n'en aient plus besoin. Mais peut-être même, est-ce par accident qu'ils ont été différents les uns des autres? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'être autrement.
Il ne s'était pas trompé, Georges Brassens. Cette volonté d'uniformisation a bien fonctionné. Regardez les lycéennes ou les lycéens. Ils sont tous sur le même modèle. Maquillage, coiffure, vêtements, chaussures sont les mêmes. En fait, ils portent un uniforme. C'est effrayant. Mais déjà en 1830, sous Charles X, le pouvoir avait su mater les esprits Et Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, décrit une soirée dont notre société a su reprendre la trame avec uniformisation et donc ennui. Voici l'extrait du chapitre 4 de la deuxième partie de ce roman. « Pourvu qu'on ne plaisantât ni de Dieu, ni des prêtres, ni du roi, ni des gens en place, ni des artistes protégés par la cour, ni de tout ce qui est établi, pourvu qu'on ne dit du bien ni de Béranger, ni des journaux de l'opposition, ni de Voltaire, ni de Rousseau, ni de tout ce qui se permet un peu de franc-parler, pourvu surtout qu'on ne parlât jamais politique, on pouvait librement raisonner de tout. La moindre idée vive semblait une grossièreté. Malgré le bon ton, la politesse parfaite, l'envie d'être agréable, l'ennui se lisait sur tous les fronts. Les jeunes gens qui venaient rendre des devoirs, ayant peur de parler de quelque chose qui fit soupçonner une pensée ou de trahir quelque lecture prohibée, se taisaient après quelques mots bien élégants sur Rossini et le temps qu'il faisait. Quelle remarquable description! Alors imaginez-vous maintenant dans une soirée, aujourd'hui, une soirée dans laquelle se retrouveraient les satellites du pouvoir, les bien-pensants, les bobos dernier cri. De quoi pourrait-on parler ? Quel sujet pourrait-on aborder et discuter sans déclencher les foudres jupitériennes ? Le climat ? Attention. Le Covid ? Attention, sujet périlleux. Le 11 septembre, complotiste. Israël, antisémite. Palestine, antisémite et terroriste. Blague de cul, violeur en puissance. Galanterie, compliments et tout le toutim, attaque sexuelle caractérisée qui peut entraîner une amende et même un procès. Parler de femmes, d'hommes, attention, transphobes, voire homophobes. Parler d'auteurs comme Céline ou Maurras, attention, antisémitisme, collaboration et action française. C'est-à-dire que vous êtes un nazi qui sûrement est un catholique traditionnel. Parler de Dieudonné, erreur 404. Comme les discussions de ma jeunesse me manquent, ces discussions à bâtons rompus où nous pouvions échanger sur tous les sujets, où nous pouvions lire ce que nous voulions, où nous pouvions rire, blaguer, et même, n'en déplaise à certaines et certains, flirter, complimenter, et même, nous pouvions regarder les valseuses sans qu'un comité ne fasse un rapport sur la culture du viol. L'on pouvait aussi se révolter contre Israël et sa politique sans avoir la menace d'un procès et de 75 000 euros d'amende. Mais vous rendez-vous compte de ce que nous avons perdu ? Et encore, je ne donne là que quelques exemples.
Liberté, les héros sont fatigués depuis des milliers d'années. Tu sais, toute leur vie, ils t'ont cherché. Liberté, liberté. Tu ne vis pas non plus.
venez d'écouter Liberté, Liberté, chanté par un groupe d'enfants dont les plus âgés se souviennent sans doute, les Poppies. Depuis la fin des années 70, les progrès de la technique ont permis aux hommes de pouvoir de mieux nous surveiller. La méthode Vidocq avait fait son temps. Les machines étaient bien plus efficaces. Aussi, dès 1978, était créée la commission Informatique et Liberté qui fit son premier rapport en 1980.
Premier rapport d'activité de la Commission Informatique et Liberté, née il y a 2 ans et qui, pour la circonstance, a décidé de décentraliser ses activités. Elle s'est rendue aujourd'hui à Lille, dans une région où l'ordinateur a déjà beaucoup de poids. Nous sommes tout près des grandes maisons de vente par correspondance. Bernard Pradino était sur place.
La Commission Informatique et Liberté, qui n'a pas d'équivalent à l'étranger, veut éviter aux Français la tyrannie de l'ordinateur. L'informatique ne doit pas porter atteinte à la vie privée, ni aux libertés, individuelle ou publique. La mission essentielle de la Commission est donc de contrôler tous les fichiers informatisés qui existent et de donner un avis sur la création de nouveaux. Or, on compte actuellement 250 000 fichiers au moins, publics ou privés, ceux de l'EDF, de la police, de la sécurité sociale, des banques, les fichiers de la vente par correspondance, les cartes grises, ceux des hôpitaux. Il y a même un commerce florissant de ces fichiers entre sociétés. Plus l'ordinateur contient d'informations sur vous et votre famille, plus les risques de vous classer en bon ou mauvais citoyen existent.
Un certain nombre d'utilisateurs de l'informatique rassemblent des informations sans savoir à quoi elles serviront, et il est possible qu'un jour ces informations puissent être préjudiciables à la vie privée ou aux libertés. Ainsi, il y a un projet concernant les cartes électroniques de paiement. Bien, quand ce système sera au point, il est évident qu'il sera possible de suivre à la trace le détenteur de cette carte. On saura que tel jour, à telle heure, il aura réalisé tel achat à tel endroit. Or, il y a une liberté fondamentale à laquelle les Français, plus que d'autres, sont attachés, c'est la liberté d'aller et venir.
La Commission a déjà donné plusieurs avis. Elle a fait infléchir certains projets administratifs à propos des douanes, du téléphone, du casier judiciaire, de la carte d'identité unique. Elle a donc un poids politique. Son premier rapport aujourd'hui prouve qu'elle existe et que son travail ne fait que commencer. La Commission Informatique et Liberté voudrait maintenant défendre mieux encore les libertés publiques, comme la liberté d'expression ou la liberté du travail. La maîtrise de l'ordinateur est l'une des conditions de la solidarité entre les citoyens.
C'était un extrait du JT de Patrick Poivre d'Arvor en 1980. Plus de 40 ans après, prenant comme prétexte le terrorisme, nos politiques durcissent le ton. Et les Jeux Olympiques vont leur permettre de s'en donner à cœur joie. Au point que la Ligue des droits de l'homme s'inquiétait pour notre liberté.
Et nous sommes à la veille de la présentation d'une nouvelle loi antiterroriste en Conseil des ministres. 19 articles qui entérinent et renforcent des mesures déjà expérimentées. Le texte s'intéresse notamment à la détection des menaces sur Internet. En gros, vos moindres faits et gestes sur la toile peuvent être tracés en direct. Mais pour Henri Leclerc, avocat président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, il était ce matin sur RMC, c'est une loi qui va trop restreindre nos libertés.
C'est des mesures qui sont extrêmement restrictives de liberté. Nous avions émis les plus grandes réserves sur les algorithmes. Nous ne connaissons pas le résultat. J'aimerais bien que nous ayons un rapport de police qui nous dise simplement ce qui a été mis en place en 2015. Ce contrôle par des systèmes d'algorithmes sophistiqués, ça nous a permis d'empêcher des attentats terroristes. C'est pas sûr de l'efficacité, il n'y a pas de rapport. Nous sommes vraiment dans une situation dans laquelle nous sacrifions des libertés sans forcément nous en rendre compte.
Sans nous en rendre compte, c'est exactement cela qui se passe depuis des années. Nos libertés sont, sous n'importe quel prétexte, grignotées, et l'on accepte ces lois les unes après les autres. Ceux qui s'insurgent sont immédiatement taxés de complotisme ou de fascisme, ce qui est encore plus drôle, car ce serait le fasciste, donc, qui se battrait pour préserver la liberté. Combien de livres, de documentaires, d'émissions pour nous expliquer le fascisme, le totalitarisme, etc., etc. Et aujourd'hui, nous acceptons une surveillance digne de la Stasi ou du KGB? Le Covid a été une étape essentielle dans l'apprentissage à l'obéissance, dans l'acceptation des décrets liberticides. Souvenez-vous que nous étions confinés, que nous devions nous auto-réglementer. On s'auto-signaient des auto-attestations de déplacement dérogatoire. Et ceux qui protestaient étaient livrés à la vindicte publique. Mais c'est à pleurer de rire ou de désespoir au choix. Il faut dire que les attentats de 2015 avaient bien préparé le terrain, car c'est sous prétexte de sécurité que le gouvernement a restreint nos libertés.
Restreindre ses libertés pour un peu plus de sécurité, aujourd'hui une majorité de Français le souhaite. Mais pour quel résultat ? Dans les 10 jours qui ont suivi les attentats meurtriers du 13 novembre à Paris, les forces de l'ordre ont procédé à 1072 perquisitions, mais n'ont interpellé que 139 personnes. Qui sont les 933 autres ? Si la promesse de sécurité rassure, l'atteinte à certaines de nos libertés dérange. Pour contrer la menace terroriste, le gouvernement autorise plusieurs actions policières jusqu'ici interdites sans l'accord préalable du juge. Perquisition de jour comme de nuit, saisie de données privées sur les serveurs en ligne. Mais si on n'a rien à se reprocher, on n'est pas concerné. C'est ce que semble penser la majorité des Français. Un sentiment justifié ? Pas tout à fait. Car pour chasser les terroristes, il faut contrôler la population. Couvre-feu, assignation à résidence, interdiction de se regrouper, contrôle de la presse, des données personnelles, nos libertés sont gravement touchées. Et si 87% des Français font confiance aux différents services de sécurité, certains dénoncent déjà leurs dérives. Petite fille blessée suite à une erreur du raid, perquisition violente sans motif lié au terrorisme, 24 militants écologistes assignés à résidence. Malgré cela, 91% des Français soutiennent la prolongation de l'état d'urgence. Un état auquel il faudra dorénavant s'habituer ?
Ce data flash a été créé par la chaîne Flash Talk. Pour imposer leur volonté et leur pouvoir, les politiques ont besoin de nous annihiler, et donc d'annihiler notre liberté. Je vous laisse écouter un extrait d'une interview de l'historien Johan Chapoutot.
Les gens là qui, hélas, occupent actuellement le pouvoir, enfin un pouvoir très faible et très agressif, hein, et agressif parce que faible, ces gens-là sont ce que Nietzsche appellerait les derniers des hommes, en fait. Les symptômes ultimes d'une évolution assez déplorable, de dégénérescence intellectuelle et morale, où au fond, il n'y a rien d'autre que l'utilité, à quoi vous me servez, hein, le profit, l'argent donc, et la puissance. Eh bien, les macronistes en sont là, c'est-à-dire à rien en fait. C'est une forme d'aménagement du néant qui est vectorisé par la puissance. Il n'y a que ça. Les gens qui paradent là sur les plateaux de chaîne en continu et dans les ministères sont très peu intéressants en soi. Mais par contre, ils sont intéressants à titre de symptômes, si vous voulez, d'expression de quelque chose d'éminemment déplorable, hein, qui est la logique néolibérale, une forme de bêtise structurelle, de néo-élites totalement décérébrées, si vous voulez, hein, qui ont érigé le management en alpha et oméga de la politique. Vous allez considérer l'autre comme une ressource dans laquelle vous allez puiser jusqu'à l'épuisement et vous allez dévaster. Vous allez détruire des existences et vous allez dévaster le monde. C'est le monde dans lequel on vit et de manière assez stupéfiante, cette dévastation-là, elle est érigée en valeur par, de fait, les nihilistes qui sont au levier de commande non seulement du pouvoir ou du pseudo-pouvoir politique et par ceux qui détiennent les leviers de commande, des fusées qui vont sur Mars et des entrepôts Amazon.
Et si tout cela n'était dû qu'à la bêtise ?
La bêtise. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute. Hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Enfin, ça, c'est un philosophe de déterminer tout ça, c'est pas à moi. Mais j'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça.
Vous avez reconnu la voix de Jacques Brel. Et c'est sur une de ses chansons que se termine l'émission d'aujourd'hui. Voici donc La Quête.
rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.